Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux d'être là parmi vous ce matin pour ensemble ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et d'essayer de répondre à une question que vous avez peut-être vue dans le Frat News. La question qui est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question en ouvrant le chapitre 4 de la Genèse. Oula, on ne m'entend plus là, non? Non. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Moi, je me la suis posée, en tout cas, en lisant ce texte. Assez récemment, en fait, en lisant ce texte, je me suis dit, pourquoi, au fond, l'offrande, le sacrifice, hein, on utilisera les deux mots ce matin un peu comme des synonymes, pourquoi l'offrande, le sacrifice de l'un est acceptée, tandis que celle de l'autre ne l'est pas? Alors, pour répondre à cette question, et je pense qu'on va essayer d'y répondre, vous allez voir, on va essayer de démêler les fils de cette enquête l'un après l'autre, et je vous propose de lire le chapitre 4 de la Genèse. Le texte est affiché. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabondant sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabondant sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le pays, dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Orient d'Éden qu'on retrouve d'ailleurs au chapitre 3 de la Genèse. Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Pour cela, je vous propose de reprendre plus ou moins 5 interprétations. Ce ne sera pas trop long, j'essaierai d'être assez bref, je vous le promets, pour qu'on puisse après avoir un temps pour savoir ce que nous dit ce texte à nous aujourd'hui. Mais reprendre 5 interprétations qui ont eu cours dans l'histoire de l'interprétation de ce texte depuis les origines, c'est-à-dire depuis l'interprétation juive de ces textes jusqu'à l'interprétation chrétienne, et en allant jusqu'à la lecture du Nouveau Testament. Quelle lecture le Nouveau Testament fait de ce texte? Alors, la première option, c'est de dire qu'il y a une préférence pour l'élevage plutôt que pour l'agriculture. C'est une des premières options pour expliquer la différence d'appréciation de ces deux offrandes. Et en effet, hein, cela représente donc les deux métiers de Caïn et Abel, et on dit qu'il y aurait une préférence pour le nomadisme, à savoir les gens qui cultivaient du bétail, du troupeau, étaient généralement ils emmenaient le troupeau en pâturage, etc., alors que ceux qui s'occupaient de la terre restaient confinés. Et on voit dans certains textes que, en tout cas du Proche-Orient ancien, qu'il y avait on appréciait les travaux nomades, disons, notamment l'élevage en faisait partie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas tout à fait un critère absolu, puisqu'on retrouve dans le Proche-Orient ancien ce qu'on va appeler du semi-nomadisme. Alors, qu'est-ce que c'est du semi-nomadisme ? C'est le fait qu'on est à la fois nomade et à la fois un petit peu sur le terrain, à savoir des personnes pouvaient élever du bétail une partie de l'année, mais aussi, à un moment donné, lorsque c'était moins propice, s'installer, se sédentariser un moment pour cultiver la terre. Donc c'est pas un critère absolu. Il y a certes une légère préférence, mais c'est pas un critère absolu. De plus, on peut voir que vers la fin du texte, hein, au verset 14 et au verset 16, le fait que de se déplacer en permanence est une sanction qui est imposée à Caïn. Donc, c'est perçu comme une sorte de sanction, de malédiction qui est portée sur lui. Donc, le fait de devoir être tout le temps en mouvement, ici, n'est pas la raison de la préférence du choix. Alors, qu'en est-il de la deuxième option ? La deuxième option dit « L'offrande d'Abel est de valeur supérieure à celle de Caïn. » Alors, on va voir que oui, oui et non. Toujours un peu les cinq, vous allez voir qu'il y a du oui et non, souvent, c'est jamais si blanc ou noir. En tout cas, c'est l'interprétation qu'en donne l'Épître aux Hébreux, qui dit au chapitre 11 et au verset 4, on peut lire « Abel, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. » C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Cependant, il faut faire deux remarques sur ce texte qui me semblent importantes. Premièrement, l'Épître aux Hébreux fait un constat. Ici, il dit juste que le sacrifice d'Abel est de plus grande valeur que celui de Caïn. Il ne dit pas que c'est la raison de l'acceptation de l'un ou du refus de l'autre. Jamais. Et on va voir qu'en réalité, il donne notre raison, notamment sur le sacrifice d'Abel, un peu plus loin dans le texte, de la raison du rejet. Mais ce n'est pas la raison du rejet. Deuxièmement, on peut se demander... excusez-moi. Voilà, pas forcément le motif du rejet du sacrifice. Deuxièmement, on peut se demander en quoi l'offrande de l'un était supérieure à celle de l'autre. On peut difficilement reprocher à Caïn d'avoir été ce qu'il a été, à savoir un laboureur. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord ? On ne peut pas vous reprocher d'effectuer la fonction que vous effectuez. La fonction en elle-même n'est pas porteuse, elle ne véhicule aucun sens ou quoi. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'avoir labouré, contrairement à son frère qui, lui, était éleveur. De plus, on n'a pas, il n'y a pas non plus de raison de penser qu'une offrande qui était faite sans effusion de sang, à savoir une offrande végétale ou des produits de la terre, n'était pas suffisante. On peut voir dans le reste de la Bible hébraïque, et notamment dans l'Ancien Testament, donc dans le livre du Lévitique au chapitre 2, qu'il y avait des offrandes de la terre qui étaient données et que Dieu les acceptait tout à fait. Donc c'est pas une raison suffisante. Donc ici, c'est pas la nature même qui est en jeu, ce n'est pas le fait qu'on ait des produits du sol ou du bétail qui soient en jeu, mais on va voir que l'accent est ailleurs. On trouve pour autant, donc toujours dans le deuxième point, dans la valeur, la notion de valeur, un indice dans le texte d'une différence de valeur. Il ne se situe pas dans le fait que ce soit du végétal ou d'un animal, mais dans autre chose. On peut lire en effet que, excusez-moi, qu'Abel présente les premiers-nés. Si vous vous rappelez, si vous avez la Bible devant vos yeux, il nous est dit qu'Abel présente les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Donc, on précise le sacrifice d'Abel. Contrairement à Caïn, il n'y a aucune précision qui est faite quant à la nature de son sacrifice. Il nous est dit que Caïn offrit des produits de la terre en offrande. Un terme générique, il offrit des produits de la terre. On ne précise pas qu'il y a les premiers-nés. Alors, certains pourraient dire, oui, bon... Des fois, on n'est pas toujours exhaustif, hein, on ne dit pas toujours tout de ce qu'il en est. Est-ce que là, ce manque de précision, est-ce qu'on peut vraiment tirer une conclusion du silence du texte ? Bon, je pense que lorsqu'on regarde la structure du texte de près, et notamment là, ces premiers chapitres de la Genèse, tout est très très bien construit. Rien n'est laissé au hasard. Et là, on peut voir vraiment une sorte d'asymétrie dans le verset, où on voit que... On précise, hein, les premiers-nés et leur graisse, hein, vraiment, on insiste sur ça, alors qu'il est question juste des offrandes de la terre pour le second. Donc il y a comme une sorte de choses mises en balance où on voit qu'il y a un intérêt pour l'un et une dépréciation pour l'autre. D'ailleurs, lorsqu'on va un peu plus loin, on peut se rendre compte que le Seigneur prend plaisir, il nous est dit ailleurs dans l'Ancien Testament, dans les premiers-nés des troupeaux. Toujours dans le livre de Lévitique, au chapitre 2, il prend plaisir dans les premiers-nés des troupeaux, mais aussi dans les prémices des offrandes végétales. Ici, il nous est dit que Caïn offre des produits de la terre, mais il ne nous a pas dit que c'est les prémices. Est-ce que vous savez ce que sont les prémices? Oui. Donc les premiers produits qui sont donnés, les premières pommes, les premiers raisins, eh bien on les offre. Ici, il n'est pas précisé que Caïn a offert les prémices, mais il nous est précisé que Abel, lui, a offert les premiers-nés. Alors, pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi les premiers-nés des troupeaux et les prémices? Pourquoi est-ce qu'il y a une importance qui est donnée comme ça aux premiers-nés et aux prémices? Eh bien, tout cela, pas parce que le Seigneur a des lubies et des petits tocs, il tient à certaines choses en particulier parce que c'est quand même mieux, non, pas pour ça, mais parce qu'il y a un sens profond à cette réalité, à savoir que on compte, en donnant les premiers fruits de notre bétail ou les premiers fruits de nos arbres, on compte sur la providence de Dieu. Lui donner les premiers fruits, c'est faire confiance que demain, le Seigneur pourvoira. Donc il y a un sens profond derrière cette réalité des premières ressources qui sont demandées d'être données à Dieu. La troisième interprétation, quelle est-elle? Eh bien qu'il existe un problème qui est propre à l'offrande de Caïn, que Caïn n'a pas offert, ça on glisse au fur et à mesure dans l'interprétation, on était déjà un petit peu à la fin du 2 vers ça, Caïn n'a pas offert au Seigneur ce qu'il avait de plus beau, de plus précieux. Il aurait gardé le meilleur pour lui. Alors ça nous est pas dit dans le texte, il aurait gardé le meilleur pour lui, mais il nous est pas dit qu'il a donné le meilleur pour le Seigneur, en tout cas. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre interprétation dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, pardon. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 12, où il nous est dit que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Donc là, ce qu'on entend par les œuvres, les œuvres, celles qu'on connaît en tout cas dans la Genèse, il y a eu le meurtre à la fin du chapitre 4, mais on peut aussi penser que derrière les œuvres, il y a aussi la notion du sacrifice qui a été fait. La quatrième interprétation, elle, nous dit qu'il y avait un problème dans l'attitude intérieure de Caïn. En effet, si on regarde le texte de près, ça je trouve que c'est un petit détail qui a vraiment beaucoup de sens, il nous est dit que Dieu a tourné son regard vers Abel et son offrande. Ce n'est pas l'Abel d'offrande, ce n'est pas l'offrande d'Abel seulement, mais vers Abel et son offrande. Comme si l'offrande et Abel ne formaient qu'un et évidemment, l'offrande reflète qui est Abel au fond. Donc vers Abel et son offrande. Et vers Caïn, ni vers son offrande. Donc on insiste sur les personnes et leur œuvre, leur offrande. Les personnes elles-mêmes sont impliquées dans l'offrande, dans le don. De même, on peut voir dans la suite de la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 12, qui affirme que Caïn, alors là c'est un verset qui fait froid dans le dos, appartenait au diable. Donc il semble que ce ne soit pas une simple appréciation de l'offrande ou non, mais qu'il y ait un problème inhérent aux personnes elles-mêmes. L'épître aux Hébreux, lui aussi, va plus loin, au chapitre 11 et au verset 4, et il fait un lien, en fait, entre l'approbation de Dieu, le fait que Dieu approuve, et les dispositions d'Abel, au chapitre 11, au verset 4. Je lis. « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, par la foi. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. » Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que l'acceptation du présent d'Abel est étroitement lié à qui il est, à sa foi, à ce qu'il met en œuvre. Et c'est d'ailleurs tout le propos de l'Épître aux Hébreux, hein, sur l'insistance qui est donnée à la foi. Sans la foi, il n'est pas possible de lui plaire. On peut lire au verset 6, deux versets plus loin. Donc, une importance de la foi. L'Épître aux Hébreux se sert de ces deux personnages, et d'Abel et de Caïn, pour mettre en avance, en évidence, la foi des personnes, pas simplement leur sacrifice. En somme, on pourrait dire que le sacrifice de Caïn ne convient pas puisque sa foi ne convient pas. Enfin, cinquième interprétation et la dernière, certains estiment qu'on aurait là dans ce texte la première manifestation d'un choix de Dieu, un choix divin, de l'élection, un choix complètement libre, et notamment dans le choix du cadet, comme c'était le cas pour Isaac et Jacob par rapport à Ismaël et Ésaü. Eh bien là, on aurait le choix du cadet, du fils cadet, par rapport aux aînés. Un choix dont on devrait respecter le silence, quelque part, ce que je ne fais pas. Puisque je pense qu'il y a des évidences dans le texte et ailleurs dans le Nouveau Testament pour nous permettre de dire autre chose, mais on aurait là un choix souverain, arbitraire, comme il y en a d'autres dans l'Ancien Testament et ailleurs, des choix de Dieu où on est restreint au silence, on ne peut que voir qu'il en est ainsi, mais sans trouver forcément de réponse. Et c'est vrai que, quelque part, Dieu n'a pas à justifier ses choix. Pas parce que nous faisons des offrandes, et même si l'offrande était bonne, que Dieu devrait forcément ou de fait l'accepter. Dieu est libre d'accepter ou non nos offrandes, bonnes ou mauvaises soient-elles. Mais le problème de cette interprétation, me semble-t-il, c'est qu'elle ne tient pas compte, justement, des petits indices qu'on a vus dans le texte, des personnes, de leur foi et de la lecture qu'en fait le Nouveau Testament. Alors, un petit bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on devait résumer les choses ainsi, voilà comme moi je l'ai fait en tout cas. Pour Caïn, on peut dire qu'il y a un problème de forme, et c'est ce que je vais appeler l'offrande. C'est la forme, l'offrande. L'offrande, dans ce texte, n'est que la forme. La forme, c'est qu'effectivement, il n'a pas offert ce qu'il avait de meilleur, d'un point de vue de l'offrande. Pour autant, il y a un problème de fond qui est sous-jacent à cela. C'est un problème de foi. Un problème de foi qui est mis en évidence par le reste du Nouveau Testament. Il y a un problème de foi. L'offrande n'est que l'expression de la foi. Abel, bien, idem, il a offert ce qu'il avait de meilleur, mais cela est aussi l'expression de sa foi. Un don libre qui est fait pour Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce texte-là, et sur les deux, trois éléments qu'on peut avancer sur ce texte prudemment. Alors, vous avez vu, hein, dans ces cinq interprétations, en fait, il n'y en a pas une qui soit bonne, mais elles se complètent toutes, elles viennent apporter un éclairage sur ce texte. Alors, on peut se demander, nous, dans cette histoire, vous doutez bien que j'ai pas posé cette question que pour savoir ce qu'il en était de Caïn et Abel sans nous poser la question pour nous. On va pas rester indifférent face au texte. Sommes-nous plutôt des Caïn ou des Abel ou des Abel? On pourrait se poser la question, est-ce que nous offrons au Seigneur ce qu'on pourrait dire une part quelconque de nos ressources? Une part où nous on garde la meilleure part? Et on offre seulement une part quelconque, ce que j'appelle une part quelconque, l'à côté au Seigneur. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette question-là? Alors, évidemment, on pense tout de suite à l'argent, hein, mais l'argent est un des nombreux aspects que cette question soulève. Il y a bien d'autres aspects, hein, on pourrait penser à notre temps, on pourrait penser à notre consécration, à notre énergie, à bien des aspects de nos vies où... Alors l'argent en fait partie, hein, puis j'ai pas envie de me faire réprimander par le pasteur et par le conseil d'église qui y a besoin d'argent dans l'église. Mais je pense qu'il y a bien d'autres aspects là où on pourrait se poser la question. Est-ce que nous offrons les prémices? Les prémices, c'est les premières choses que nous produisons, les choses où en fait on prend un risque, hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'offrir les prémices, c'est que quand un agriculteur offre les prémices et qu'il offre les premières récoltes, s'il y a un orage qui passe demain, la récolte peut être complètement ravagée, et puis on a offert au Seigneur les premiers fruits qu'on a, et puis on peut ne plus avoir plus rien demain. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Pour autant, offrir les prémices, ça comporte un double risque, il me semble. Le premier, le risque de manquer. Inévitablement, offrir les premières choses qu'on a de notre essentiel, on risque de manquer. Mais il y a aussi un deuxième risque, qui me semble aussi un risque, mais qui peut être exploité, c'est le risque de se laisser conduire par Dieu, et de se laisser surprendre par Dieu. En effet, offrir ce qui nous est essentiel et en tout cas immédiat là dans l'instant présent, c'est aussi prendre le risque de dire « Seigneur, je t'offre là ce que j'ai immédiatement, je ne sais pas ce qu'il en sera de demain, mais je prends le risque de te faire confiance et de me laisser conduire par toi, de me laisser surprendre. » Alors attention, il n'est pas question là de encore une fois, de transaction. On sait qu'on offre quelque chose au Seigneur et on se dit j'ai 10 000 sur mon compte, si j'en offre 8 000, je sais quand même avec le Seigneur que dans 6 mois, j'en aurai plus sur mon compte. Il ne faut pas rentrer du tout dans cette logique-là. On est bien d'accord, hein ? Il y aurait d'ailleurs une grande part de risque, puisque comme on a dit, le Seigneur n'est jamais contraint d'accepter nos offrandes. Jamais. Ce n'est pas du tout ça, la logique sous-jacente, mais c'est de dire j'ai ce que j'ai, mais je choisis de faire confiance au Seigneur pour me laisser conduire dans une société ultra-matérialiste, dans une société où l'Église vient en dernier, de faire le choix de me laisser surprendre par le Seigneur. Aussi, généralement, à part quand vous faites arrêter par une association dans la rue qui vous demande de signer pour la Croix-Rouge une offre de don ou quelque chose d'autre, généralement, on peut facilement dire que notre attention, ce que l'on donne aux gens est proportionnel à notre relation. Votre famille, vos enfants n'ont pas le même soin que lorsque vous recevez quelqu'un d'autre à la maison au quotidien. C'est un soin quotidien, une attention particulière, on fait attention aux résultats à l'école. Voilà, il y a tout un soin qui est accordé aux gens qu'on aime le plus, forcément. À part quelques exceptions, hein, de dons, etc. Offrir peu et offrir ce qui est de plus au Seigneur revient à dire qu'au final, pour nous, il n'a que très peu d'importance, si l'on retourne la logique. On peut aussi dire ça, c'est qu'on peut, il nous faut donner dans un esprit de pure offrande, pas dans une logique de transaction ou de théologie de la prospérité où donner, 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 et Dieu vous le rendra au centuple, mais donner dans un esprit de pure offrande, parce qu'on est conscient que le Seigneur a déjà fait beaucoup pour nous, et il s'agit alors simplement de faire plaisir à Dieu. Faire plaisir à Dieu, parce qu'on est conscient qu'il nous a tout donné. On a dit quelque chose d'important, c'est que l'offrande n'était que le reflet de quoi ? De la foi. Si notre vie d'offrande et notre vie de don, de manière générale, hein, attention, hein, encore une fois, lisez autre chose que l'argent derrière, si on devait évaluer nos offrandes, nos dons, qu'est-ce que ça dirait de notre foi ? Puisqu'on voit qu'il y a un rapport étroit entre l'offrande et la foi, que disent nos offrandes de notre foi ? Là, je vais reprendre une petite expression qu'on a vue hier pour ceux qui étaient à Wan. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de monde, c'est pour ça que je me suis permis d'ajouter un petit élément qui pourrait rappeler quelque chose. Il y a Gilles Geyser, le matin, qui nous a dit « Ton culte, c'est ta vie. » Alors, c'était... Moi, ça m'a complètement retourné, et puis en plus, ça allait très très bien dans ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc je trouvais que c'était d'autant mieux conduit. « Ton culte, c'est ta vie. » Est-ce que notre vie de foi, de piété, se résume à ce que nous vivons de manière assez gentille au culte le dimanche matin et dans des réunions ? Ou est-ce que notre vie entière est une offrande qui est conséquente avec ce que nous vivons dans notre foi ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et Gilles Geyser disait « Ton culte, c'est ta vie. Toute notre vie est une offrande à Dieu, et pas seulement ce que nous vivons le dimanche matin. Notre vie tout entière est là pour lui plaire. » Alors, on pourrait se sentir un peu lourd, là, se dire « Ouh là là, on se sent repris, certes. Moi, je l'ai été en préparant ce message. Je me suis senti repris de me dire, est-ce que mon culte, c'est ma vie? Est-ce que mes offrandes, si demain on évalue mes offrandes, qu'est-ce qu'elles diraient de ma foi? J'en suis pas tout à fait fier. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est que Dieu reprend Caïn. Il ne le laisse pas, le châtiment ne tombe pas directement après, mais Dieu interpelle Caïn, comme de la même manière que nous sommes interpellés ce matin. Et il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et on peut se dire la même chose, si nous agissons bien, si nous prenons des bonnes résolutions, alors le Seigneur relèvera notre visage. Nous avons cette espérance et cette marque déjà, je trouve d'une marque très très belle de sa grâce dans ce texte-là. Alors, je vais reprendre un motif connu. On peut tous changer une chose. Dans notre vie de piété, et qui, de ce fait, découle forcément sur nos offrandes, sur ce que nous exprimons. Notre foi est intimement liée à nos offrandes. On peut tous changer une chose dans notre relation à Dieu, dans la manière dont nous lui rendons un culte, dans notre vie de manière générale, pas simplement le dimanche matin, mais je pense, moi en tout cas, j'étais très interpellé dans ma manière de vivre ma piété et de me dire, mais est-ce que ma vie, de manière générale, est une offrande? Est-ce que j'offre les prémices de ma journée le matin, en me levant, au Seigneur? En me disant pas, je fais ma prière le soir parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'aimerais voir si je vais réussir à tout mettre dans ma journée, dans les périodes en novembre où on est plutôt chargé, notamment. Est-ce que j'offre les prémices au Seigneur de ma journée en lui faisant confiance qu'il régnera sur ma vie et sur ma journée de manière générale? Alors, je vais vous proposer quelque chose qu'on n'a pas fait hier à Wan et dont on n'aime pas trop faire ça dans les milieux évangéliques. C'est un moment de confession des péchés. Alors, un moment de prière et de confession des péchés où moi je vais commencer, je vais me lancer et de demander pardon au Seigneur parce que effectivement, à travers ce texte, je me sens rejoint et j'ai envie d'aller plus loin, de changer une chose, c'est ma vie de piété, lui offrir les prémices, comme je le fais pas à chaque fois, de ma journée, tous les matins. Alors, on l'a pas fait hier, hein, c'était un grand événement et tout, mais là on est entre nous, donc je vous propose de passer un moment dans la prière où on puisse librement confesser, peut-être à haute voix aussi, il y a quelque chose de bon là-dedans, je pense, et dire au Seigneur, moi j'aimerais aller plus loin. Seigneur, moi j'aimerais te demander pardon pour toutes ces offrandes qui ne sont pas bonnes et qui sont au final le reflet de ma foi, qui n'est que peu de choses. Et Seigneur, j'aimerais te remettre ma vie et te remettre aussi tous ces moments où tu représentes le quelconque, les choses qu'on met à côté et pas les prémices, pas les choses qui me coûtent et qui montrent au final que je te fais confiance sur ma journée, que tu règnes sur mon quotidien. Seigneur, pardon pour mon péché, mon imperfection et je te prie de m'aider, de nous aider tous ensemble à pouvoir aller plus loin avec toi et de choisir une chose qui changera notre relation avec toi. Amen.